Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Libraire, c'est un métier physique dans lequel on a toujours les mains sales, disait François Maspero. Un métier pour lequel on est le plus souvent mal payé de ses efforts, pourrait-on ajouter, aujourd'hui plus que jamais peut-être, et à Lyon comme ailleurs. Car, comme on va l'entendre, que la capitale des Gaules ait été longtemps aussi celle de l'imprimerie et du livre, n'y rend pas plus confortable le commerce des librairies indépendantes du début du XXIe siècle. En 2013, dans Les Pieds sur Terre, Olivier Minot rendait visite à des libraires lyonnais qui tentaient, tant bien que mal pour certains, de faire face à l'adversité d'un monde tout près d'être livré à l'ogre Amazon. Quand d'autres, employés d'agonisantes librairies devenues propriétés de grands groupes, avaient dû subir les lubies de marketing les plus aberrantes avant de devoir prendre la porte pour cause de fermeture définitive. Les Pieds sur Terre, libraires en galère, une émission diffusée la première fois le 19 juin 2013 sur France Culture.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Mon bagage mathématique m'a beaucoup aidé. C'est beaucoup un métier de chiffres, en fait, la librairie. Le fantasme du client de oh, « c'est super, on est libraire, on peut lire tout le temps, et c'est génial, et on fait que des choses sympas avec des livres. » Non, c'est pas ça. La réalité, c'est charrier des cartons, c'est sortir des livres des cartons, les enregistrer, contrôler que les prix sont bien faits, les mettre en vitrine, en rayon. J'ai jamais tant porté de choses l'autre que depuis que je fais ce métier. Et puis, c'est... des heures et des heures et des heures à gérer de la facture, des paiements. C'est une tâche administrative et manutentionnaire. C'est 80% par rapport au toucher des livres.
C'est aussi un lieu, au-delà de ça, c'est aussi un lieu de sociabilité. C'est-à-dire un lieu où on peut s'attarder, on peut parler. Aussi peut-être un lieu, je me faisais la réflexion l'autre fois, où un des derniers lieux où on parle, on baisse la voix dans les librairies, on baisse la voix dans les librairies et on baisse la voix à l'hôpital, dans les cimetières, dans les maternités. Bon, c'est un lieu aussi quand même singulier, quoi, ce monde où il y a du livre. Et une librairie qui ferme, quelle qu'elle soit, c'est toujours un crève-cœur, c'est triste. Il y a vraiment une crise du livre. Et cette crise-là, elle n'est pas favorable à la démocratie.
On baisse la voix dans les librairies, on traîne, on flâne, on feuillette, on soupèse, on découvre. On lit assis par terre des livres qu'on n'achètera pas et on regarde debout, du bout des doigts, des livres qu'on adore détester. On achète des livres qu'on ne lira pas et on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Chez Gibert, on fait des rencontres amoureuses. Dans le 18e, on attend poliment que la libraire ait fini de téléphoner. Et à la librairie de Paris, il y a des filles qui viennent seulement pour le beau Matteo. 13 000 personnes travaillent aujourd'hui pour que ces chuchotements puissent s'entendre dans 2500 à 3000 points de vente, librairies indépendantes dont le réseau est un des plus denses au monde. Mais depuis 10 ans, le secteur de la librairie en général est en recul d'environ 8%. Et malgré le plan de soutien en faveur des libraires indépendants déclenché par la ministre de la Culture qui a mis tout de même 18 millions d'euros dans l'affaire et une batterie de mesures, les grandes enseignes ferme et les indépendantes aussi où vivent difficilement. La faute à Amazon, disent-ils en chœur, le site de commerce américain devenu la bête noire des indépendants. D'après le site du syndicat de la librairie, pourtant, Amazon ne représente que 7 à 8% du marché du livre. Mais le verre est dans le fruit, ajoute-t-il. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, on a mélangé volontairement trois histoires et trois parcours de libraires et de librairies très différents pour une petite cartographie des métiers à Lyon. Toutes trois ont en commun de se prendre la crise de plein fouet et y trouvent des solutions qui vont du marketing outrancier à la philanthropie, en passant par les rustines Michelin. Il y a Isabelle, la libraire de la librairie Musique à l'âme. Il y a les libraires de chapitres qu'on appelle encore et toujours Flammarion, le nom que la librairie portait en 1907. Et il y a enfin Joe, le bouquiniste devenu brocanteur de tout. Libraire en galère, c'est sur France Culture.
Nous sommes à Lyon, dans le premier arrondissement, à quelques centaines de mètres de l'Opéra, dans une petite rue pavée, qui s'appelle la rue Pizet. Et on arrive devant une librairie aux grandes fenêtres, avec un logo rouge et noir, une librairie qui s'appelle Musique à l'âme. Bonjour.
Je m'appelle Isabelle Maillot, j'ai 48 ans, je suis franc-comtoise d'origine, je suis à Lyon depuis l'an 2000. J'ai eu une autre vie avant, qui était une vie dans l'informatique scientifique, j'ai travaillé pendant 20 ans. J'étais ingénieure, j'ai une formation de docteur en maths, j'ai la panoplie du cadre dynamique. Moi, j'étais dans ce confort avec un salaire tous les mois, des congés réguliers, des week-ends. Mais en même temps, c'était trop peu par rapport à l'inconfort intellectuel et moral que représentait cette espèce de n'importe quoi par rapport au travail, quoi. Je dirais que le plaisir intellectuel a été remplacé par des considérations, des contraintes économiques, des contraintes de rentabilité. Donc le jour où on m'a dit « ça peut plus durer », je me suis dit « effectivement, ça peut plus durer ». J'ai baissé les yeux pour pas montrer à quel point... C'est une bonne nouvelle pour moi. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de charges personnelles autres que moi, donc c'était probablement moins compliqué de prendre cette décision-là. Je suis partie de mon travail fin 2003.
Puis vous avez ouvert donc mi-2005
9 mai 2005. En bonne mathématicienne, j'avais fait des études de marché fouillées et j'arrivais à des estimations toutes identiques. À partir desquels j'avais créé un business plan, comme on nous l'impose à tous les échelons de l'étape de création. 8 ans après, on ne fait toujours pas le chiffre prévu la première année sur ce business plan. Ça veut dire qu'au niveau gestion comptable, il faut être vigilant à tout, donc tous les boulons sont serrés au maximum. Quand une ampoule a claqué dans la vitrine, on se donne un mois pour la remplacer, on ne la change pas le jour même, parce que de toute façon, elle claque au bout d'un mois, donc on a gagné une ampoule. Et moi, pendant des années, c'est mes clients qui m'ont financé ma trésorerie. C'est des gens qui tiennent à nous et qui ont fait des chèques à Isabelle Maillot à titre privé pour qu'elle puisse boucher le trou de la banque. C'est nos clients qui nous ont fait passer les mauvais caps. Et puis pour moi, ça a voulu dire qu'on se paye pas, on cotise pas, on se fait pas de retraite. Enfin, c'était 3 pleins temps effectués depuis toutes ces années.
C'est-à-dire 3 pleins temps.
Bah, ça veut dire 90 heures par semaine, quoi. Et puis, j'ai passé 3 hivers sans chauffage à la maison, parce que le gaz, c'est trop cher. On se fait à manger du riz et des nouilles tous les jours. Finalement, c'est pas mauvais pour la santé. Je me suis fait aider par des amis, à qui je dois de l'argent aujourd'hui, parce que c'est eux qui m'ont prêté de quoi manger. On vit sur un... Voilà, vous achetez pas de vêtements, vous sortez pas, vous achetez pas de journaux, vous achetez pas des livres parce que vous en avez ici. De toute façon, à l'heure où vous rentrez, vous avez pas tellement le temps de lire. J'ai pas su lever le nez de la fatigue. Ça, c'est un vrai regret, parce que je pense que j'ai raté des trucs en m'enferrant là-dedans. Des histoires d'amour, par exemple, des relations, voilà, une histoire d'amour qui démarre, qui peut pas se développer, qui peut pas se vivre, parce que quand vous êtes tout le temps au travail, il n'y a pas de place pour ça. La vie sociale et la vie intime, elle est réduite à sa plus simple expression. Moi, cette librairie, ça a été mon gosse. Enfin, si vous avez un enfant qui, toutes les nuits, vous réveille et vous réclame, vous vous levez, vous y allez. Je n'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, j'ai fini de payer les prêts. Donc, ça fait quand même une masse financière importante qui n'est plus à sortir. Dans le même temps, on est, depuis début 2013, dans une période hyper compliquée économiquement pour tout le monde. Donc, oui, on est sorti d'affaires, mais... Ça change pas le fait que la rentabilité économique des librairies aujourd'hui, c'est zéro. Elle peut s'équilibrer à coup de smicards dans les rayons, dont on exige qu'il soit compétent, cultivé, accueillant, souriant, disponible. On exige des libraires qui soient tout ça et qui soient smicards. Sinon, ça marche pas. Nos entreprises ne fonctionnent pas. Il faut nous aider à tenir. Un jour, il n'y aura plus qu'Amazon. Et si vous n'avez pas lu le bouquin qui vient de sortir sur le sujet, je vous le conseille, c'est intéressant. La nuit, les mecs qui poussent les wagonnets au fond de la mine là, pour que ça arrive dans nos boîtes aux lettres le lendemain matin peuvent faire voisiner dans le même chariot les pires théories néo-nazies, la pornographie la plus crasse et avec un Victor Hugo d'un côté et un Voltaire de l'autre. L'anonymat d'Internet permet la diffusion d'idées qui étaient auto-censurées ou qui étaient encadrées quand les achats se font à visage découvert dans un lieu ouvert. Et puis surtout, le jour où il n'y aura plus qu'eux pour vendre des livres, il y a un paquet de jolies choses qui ne seront plus publiées, parce que si ce n'est pas rentable, ça n'a aucun intérêt. C'est un vrai drame pour la production intellectuelle, culturelle, pour la diffusion de ce qui fait qu'on est des êtres humains et pas des veaux ou des robots, quoi. On doit à un gouvernement socialiste d'avoir créé la loi sur le prix du livre, en 81. Il est possible qu'on doive à un gouvernement socialiste et ce bon Montebourg d'avoir subventionné l'implantation du troisième site d'Amazon à Chalon-sur-Saône avec des montants de subventions qui scandalisent n'importe lequel des libraires qui pleurent le tiers du quart sans les obtenir. Voilà, et on aura renforcé un concurrent qui paye pas ses taxes en France, qui impose des contrats de travail limite légaux, des conditions de travail scandaleuses, et qui ravage une partie de la culture française. Je sais pas si Montebourg a bien conscience des conséquences de ses choix. Il a expliqué beaucoup que c'était un grand, grand pas pour l'emploi. Quand on regarde les chiffres, ça doit représenter 200 CDI. Dans le même temps, dans la région, on a perdu largement autant de libraires, de disquaires et de tous ceux qui sont en amont. Moi, je veux dire, quand un bouquin m'arrive ici, il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont travaillé le long de la chaîne pour que ça arrive ici, qui ne travaillent pas pour que ça arrive chez Amazon. Mon bagage mathématique m'a beaucoup aidé. C'est beaucoup un métier de chiffres, en fait, la librairie. Le fantasme du client de oh, « c'est super, on est libraire, on peut lire tout le temps et c'est génial et on fait que des choses sympas avec des livres ». Non, c'est pas ça. La réalité, c'est charrier des cartons, c'est sortir des livres des cartons, les enregistrer, contrôler que les prix sont bien faits, les mettre en vitrine, en rayon. J'ai jamais tant porté de choses lourdes que depuis que je fais ce métier. Et puis, c'est des heures et des heures à gérer de la facture, des paiements... Mais c'est une tâche administrative et manutentionnaire, c'est 80% par rapport au toucher des livres.
Vous avez le temps de lire quand même un petit peu ?
Très peu. Le soir, une demi-heure, dont 10 minutes à me secouer la tête pour aller au bout de la page, et c'est super frustrant.
Alors nous sommes maintenant place Bellecour, sur la plus grande place de Lyon. Et sur cette place, il y a une librairie historique qu'on appelle encore la librairie Flammarion, mais qui a changé de nom au fil des années, puisqu'aujourd'hui elle s'appelle Chapitre. C'est une grande librairie et dans la vitrine, il y a « Non aux fermetures, Lyon 23 licenciements ». Et on va rentrer.
Oui, Véro. Là, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose qui était chez Kalman Levy. Voilà, c'est celui-ci.
Mais vous ne l'avez pas ici.
Non, non. Alors, il faut quand même... Vous comprendrez, comme la librairie est en... Voilà. Nous allons fermer. Donc, du coup, les stocks ont été laissés. Hein. Ah, là, voilà. Si, si, c'est bon. Elle est bien en poche, c'est ça. Je peux vous la commander si vous le souhaitez.
Oui, je vais bien.
responsable du rayon sciences humaines pour la librairie Chaplin.
Et vous ?
Voilà, et donc moi, Véronique Crouzet-Tenu, je suis responsable du rayon droit éco-gestion.
Alors c'est une librairie qui a été très longtemps sous l'égide de Flammarion, hein, de l'éditeur. Elle a ouvert en 1907. Donc c'est une librairie un peu de référence.
On a été racheté une première fois en 99 par Priva, mais on était là entre les mains d'un monsieur, monsieur Denval, qui venait du livre. Sauf que ce monsieur était âgé, donc il a décidé de vendre et qu'il a donc vendu en 2005 au groupe Bertelsmann, un gros groupe de presse qui détient M6, RTL, Prisma Presse, Françoisir, Le Grand Livre du Mois, Françoisir Voyage, etc. Et en 2008, la direction a décidé d'être première devant la FNAC en 2010.
Ils ont commencé à demander à ce qu'on réduise le fonds et à mettre en avant les best-sellers. Hein. Ils ont été beaucoup moins tolérants sur le stock âgé, donc ce stock qui tourne lentement, mais qui fait, on va dire, la légitimité d'un rayon, hein, des titres qu'on vend peu, mais qui sont incontournables. Et donc on a eu finalement des listes, des titres que l'on devait retourner.
Retourner, ça veut dire renvoyer à l'éditeur?
Ça veut dire renvoyer à l'éditeur. Et on a commencé à nous obliger à retourner des titres, simplement parce qu'ils avaient tant d'âges de stock et qui considéraient qu'un livre qui, par exemple, n'avait pas trouvé un acheteur au cours des 9 derniers mois, c'était pas utile de le garder. Et petit à petit, effectivement, on a perdu une identité et les gens sont allés chercher ailleurs ce qu'ils trouvaient plus ici, quoi.
Déjà l'apparition de ce marketing à la Françoisir, installer des livres en colonne, 3x3 par exemple, ou en double facing, il y a eu des choses comme ça. Mettre deux livres comme ça. Oui, ça normalement c'est quand vous faites une tête de gondole, il faut faire comme ça là. C'est plus lisible.
On met deux fois le même livre.
Parce qu'une fois, il faut croire que la personne ne le voit pas ou qu'elle ne comprend pas ce que c'est.
C'est des gens très indigents en marketing qui ont édicté toutes ces règles qui consistent à mettre des livres en colonne parce que paraît-il que l'œil du consommateur regarde de haut en bas.
Dans un premier temps, on ne sait pas d'où ça tombe, d'où ça sort. Et puis après, on se rend compte que ce sont des méthodes qui sont plutôt utilisées en grande distrib alimentaire. À un moment, il n'y a pas très longtemps encore, quand on entrait dans la librairie, on trouvait dans l'entrée de la littérature. Quelques années plus tard, on trouvait des mugs, des smartbox, des t-shirts, des...
Voilà. Le directeur d'exploitation qui, bien qu'ayant travaillé à Françoisir, venait aussi de Célio. Voilà.
Plutôt de la vente de vêtements.
Voilà, absolument. Vente de vêtements, Célio, Décathlon, voilà, donc... Quand vous avez quelqu'un de chez Decathlon qui vient dans votre rayon scolaire et qui vous dit « Pourquoi vous ne classez pas les livres par couleur ?» Ça laisse un petit peu étonné. Le scolaire, comme les sciences humaines, ça s'apprend, quoi. Hein, c'est pas, ça ne s'improvise pas. En tout cas, ça ne se classe pas par couleur. On a quand même été formés, si tu te souviens, à l'accueil client.
Aussi.
Voilà, on nous a expliqué un jour qu'il y avait, c'est pas un acronyme, c'est, il faut appliquer le SBAM, S-B-A-M, c'est-à-dire souriez, bonjour, au revoir et merci. Donc vous venez expliquer à des libraires qui ont 20 ans, 30 ans d'ancienneté que quand un client arrive, il ne faut pas oublier de lui sourire, il ne faut pas oublier de lui dire bonjour, au revoir et merci.
Ils ont fait un pari, si vous voulez, qu'on allait attirer une clientèle en fait, qui venait pas dans cette librairie et en laissant tomber celle qui venait. En fait, celle qui venait ne vient plus et l'autre n'est jamais venue.
Quand je suis arrivée en 2001, il y avait pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement deux personnes par rayon, à peu près, ou une et demie. Alain, tu as commencé en histoire, alors tu te retrouves avec l'histoire, la géo, la socio, la philo, la psycho, la religion.
La linguistique. Et normalement, on est au moins trois, surtout dans une librairie importante. Donc il y a eu une réduction quand même carabinée des effectifs.
Et oui, on a été 40 il n'y a pas très longtemps et on est 20, donc c'est divisé par deux, hein, tout simplement.
Alors la situation aujourd'hui, c'est laquelle ?
La situation d'aujourd'hui, c'est que ce réseau de 57 librairies, tout le réseau dégage des pertes. Donc la seule solution qui a été trouvée aujourd'hui, c'est de fermer des magasins.
Dont celui-ci, donc ici.
Dont celui de Lyon, voilà. Donc au total, ça fait quand même 12 librairies qui vont fermer. Ça va faire 271 licenciements. La direction reste persuadée qu'en fermant ces 12 magasins, la restructuration qui est proposée devrait, d'après eux, permettre aux 45 magasins restants de résister et de perdurer. Sachant que ces magasins vont quand même subir des restructurations, c'est-à-dire des suppressions de rayons, c'est des DVD par exemple, pour être remplacés par des fameux corners François-Zir, des corners Karine Herzog, c'est-à-dire qu'il est décidé d'installer des produits cosmétiques dans les librairies, et des corners, pour utiliser ce vocabulaire, des corners Sequoia de compléments alimentaires.
Merci. Dans les librairies.
Dans les librairies.
Alors vous, qu'est-ce que vous allez devenir une fois que le chapitre sera terminé ?
Écoutez, j'aimerais rester dans le monde du livre, mais je crois que je vais avoir... ça va pas être simple de continuer en librairie parce que je suis un petit peu fatigué de ce qui s'y passe. Je voudrais bien continuer effectivement dans ce monde, mais peut-être plutôt dans le monde de l'occasion, enfin de la bouquinerie, où les règles sont différentes. Si je pouvais, je finirais bien de ce côté-là, oui, de l'autre côté, oui, à l'orphelinat, plutôt qu'à la maternité. Là, c'est la maternité, on a les nouveau-nés, et là-bas, il y a les bouquins qu'on abandonne.
On est maintenant dans le Vieux Lyon, dans le 5e arrondissement, dans la fameuse rue Saint-Jean, rue la plus touristique de la ville, avec ses boutiques de souvenirs, sa maison de guignol, ses restaurants pour touristes. Une rue complètement vidéosurveillée. Et au milieu de toutes ces boutiques, il y a un des plus vieux bouquinistes de Lyon, qui s'appelle Hérodote. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait longtemps que vous êtes dans cette petite boutique ?
32 ans.
Alors c'est une toute petite boutique, c'est pas très grand ?
Ouais, c'est pas grand, ouais. Mais ça me suffit largement pour foutre le bordel. Hein. Plus grand, ce serait encore plus de bordel, c'est tout. Hein. Donc, de toute façon, je range pas. J'ai jamais rangé, et je vois pas pourquoi je rangerais. Hein. Mais j'ai pas que ça à faire. Hein.
Comment vous êtes arrivé là sur ce métier ?
Bah parce que de toute façon, j'avais pas de fric. Et que c'était un des rares métiers où vous pouviez démarrer sans pognon. Sans fric du tout. Juste, il fallait, c'est quelqu'un vous loge et vous donne à bouffer. Ma femme. Voilà. C'était le seul truc qui comptait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous nourrit et vous héberge, parce qu'au point de départ, vous ne gagnez pas d'argent du tout. Tout ce que vous gagnez, vous le réinvestissez sans arrêt. Hein. Donc, vous n'avez pratiquement pas de fric pour vivre.
Et donc vous, au fur et à mesure des années, vous avez pu rendre votre activité rentable ?
Oui, officiellement, oui. Mais bon, c'est pas ici que je fais mon chiffre d'affaires. C'est à côté, je vends des trucs que j'ai chez moi, ou des trucs comme ça, ou des clients qui me demandent des trucs spéciaux, et ainsi de suite, voilà. Puis j'ai des très vieux clients, j'ai des clients à qui je vends depuis des années, des bouquins, depuis 30 ans. Moi, je m'intéresse qu'aux passionnés. Hein. Les autres, ils m'emmerdent. Hein. Bon, je m'occupe que des passionnés, point. À qui je vends des photos, des marches, n'importe quoi. Des timbres, des rustines de vélo, des t-shirts de vélo.
Alors là, c'est plus du livre, là.
Alors, un passionné de vélo. Hein. Mes collègues, ils lui vendent que des livres. Pas de bol, au bout de 30 ans, les livres, il les a tous. Donc moi, mon boulot, c'est de trouver... ce qui a un rapport avec le vélo qui n'est pas automatique. Mais des t-shirts de corps cyclistes, des rustines anciennes, de Manu France, des trucs comme ça. De tout, des photos, de tout ce qui me passe. Je m'en même des vieux médicaments, ainsi de suite. Des médicaments à la cocaïne, à l'héroïne, des trucs comme ça. c'est des gens à qui je dis, tenez, je trouve un médicament un peu bizarre, voilà, ou une crème un peu curieuse. Je regarde les notices, si je vois qu'il y a de la cocaïne ou de l'héroïne dedans, bon, ben, je les prends.
Et vous avez revendu ça à qui ?
Ah ben, des gens qui collectionnent des médicaments bizarres.
Ah, il y a des collectionneurs de médicaments bizarres ?
Non, c'est moi qui ai décidé qu'ils s'étaient collectionneurs. Quand quelqu'un est passionné, quand je trouve les flacons, hein, je dis au type, ben voilà, dans votre collection, ce sera joli. Hein, ça fera joli.
Et les livres, ça représente combien dans votre, en termes de...
Je ne fais pas de statistiques. D'abord, je ne fais pas de comptabilité. Hein. Donc, bon,
vous n'avez pas de comptabilité
ça, du tout. Hein. 35 ans sans comptabilité. Hein. Ah, mais je paye des impôts. Hein. Je paye des impôts.
Ah.
Non, mais je déclare à peu près. Puis voilà. J'ai eu des collègues hein, qui s'amusaient à faire des statistiques. Ils ont tous fermé. Parce que notre boulot, c'est pas de faire des statistiques. C'est de trouver des trucs qui font plaisir aux clients.
Et donc vous, votre temps de travail, c'est beaucoup ici, et c'est aussi les moments de recherche, de chinage, comme on dit ?
Ici, temps de travail, pas exagéré. Je suis ouvert que 5 jours par semaine et 9 mois sur 12.
Pour vous, c'est pas vraiment un travail, en fait ?
Oh ben non, sinon je le ferais pas. C'est le vrai travail, c'est justement pour ça que je me suis mis dans ce métier, c'est pour plus travailler. C'est quand même pas pour... pour gagner sa vie sans rien foutre, ben voilà, j'ai trouvé la solution, c'est tout. Par exemple, ce matin, j'étais en train de boire un café avec des gens en discutant, voilà. Et c'est dans la discussion avec les gens qu'on apprend que peut-être là-bas, il y a quelque chose qui est intéressant ou je sais pas quoi, voilà. Tout ce qui a existé, je le fais. Si ça a existé, c'est à sauver. Tous les bons bouquinistes font comme moi. Les nuls, non. Mais tous les bons font comme moi. Ils ne vous le diront pas, mais ils le font. Notre métier, c'est de trouver les bizarreries. Et les bizarreries, c'est pas marqué bizarrerie dessus. Oui, c'est pas marqué attention bizarrerie. Hein, c'est marqué rien du tout.
Bonjour monsieur. Je cherchais un livre de Jean Béraud, ça doit être Jean Béraud sur Lyon.
De
monsieur Béraud. Jean Béraud, je crois.
On parle de l'avocat.
Oui, puis il a écrit un livre.
Oui,
un roman. Tu prends le roman. Floating red hair
and playing chess.
White skin of silk, a ponytail, a sunny face. She is a bookworm, setting her mind at rest, reading the book of powers, the two brothers' quest, reading George Orwell. As well, 1984, she says, hey, 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 and you penetrate the secrets of my days. The time of our singing, she says, hey, hey, hey.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, libraire en galère, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Assia Khalid, l'attachée de production. C'est bien sûr Sandrine Chaperon avec Lou Vigée. Merci à Véronique, à Alain, à Hélène, à toute l'équipe de Flammarion à Lyon, à Isabelle Maillot et à Joe le bouquiniste. Vos réactions, vos suggestions, vos commentaires, surtout vos idées, tout ce que vous voulez nous dire, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la rubrique Les Pieds sur Terre.
In the flea market for second-hand books. She is driving her life for chess and books. Just fun for chess. Just fun, Miss Tony Lees sends bread and she offers books to her lovers. Could they ever understand? She's got the slathers on her lovers, they could never understand that she's got their whole life in her hands. Could they ever understand? And every day she's lovers say, what what's hot in my days. Hey, 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 American Psycho, she says. Hey, 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 what's hot in my days. Hey, 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 Dream Tiger, she says. Hey, 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 what's hot in my days. Hey, 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 the clockwork around, she says. Hey, 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 what's hot in my days.
C'était Les Pieds sur Terre, Libraire en galère, une émission proposée par Olivier Minot, diffusée la première fois le 19 juin 2013 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.